Les rendez-vous santé d'Africa numéro 1, la prévention, en partenariat avec Santé publique France.
Près de 10% de la population mondiale souffre de diabète et ce chiffre ne fait que progresser. Aujourd'hui, lorsqu'on cumule le diabète, les cancers et les accidents cardiovasculaires, on trouve 80% des décès prématurés dans le monde et particulièrement dans les pays à faible revenu. À l'origine de ces phénomènes, on trouve notamment le mode de vie, l'alimentation et le manque d'activité physique. Ce matin, nous allons nous attacher particulièrement à l'alimentation. En quoi notre alimentation peut influencer notre vulnérabilité au diabète, au cancer, aux AVC? Quelles solutions pour enrayer cette épidémie galopante? On en parle avec nos invités. Stéphane Besançon qui nous rejoint, il est en direct du Mali. Bonjour, merci de nous rejoindre Stéphane Besançon. Vous êtes nutritionniste et responsable de l'association Santé Diabète. Et avec nous sur le plateau de la radio africaine, Domingas Francisco, merci d'être avec nous Domingas, vous êtes aide-soignante en formation diététique et vous animez aussi des ateliers thérapeutiques, on en parlera tout à l'heure, vous êtes aussi présidente d'associations dont l'association CRI des Mères, merci d'être avec nous tous les deux. Alors première question pour vous Stéphane Besançon, alors parlons un peu de ces chiffres qui concernent le diabète, on le disait en introduction de l'émission, près de 10% de la population mondiale souffre de diabète, alors que disent ces chiffres, où en est-on aujourd'hui avec cette maladie chronique qu'est le diabète? Un petit bilan mondial, s'il vous plaît Stéphane, bonjour.
Bonjour et merci de m'inviter. En fait, on a des chiffres qui sont en constante augmentation. On a déjà plus de 400 millions de diabétiques dans le monde. Il y aura plus de 600 millions de diabétiques d'ici 2040. Donc c'est vraiment une explosion de la maladie et qui continue. Hein. C'est pas quelque chose qui est nouveau, ça fait déjà une quinzaine d'années où les chiffres sont, toutes les prévisions sont dépassées année après année avec une croissance de la pathologie qui est très très inquiétante. Et ça c'est vraiment à échelle mondiale, oui. On doit comprendre, c'est pas lié qu'aux pays riches. Aujourd'hui, dans les pays en développement, l'explosion est très très forte et l'augmentation de prévalence est même encore plus forte, j'allais dire, que dans les pays riches. Par exemple, sur cette fameuse carte qu'on a l'habitude de voir de la Fédération internationale du diabète, sur la période 2020-2040, c'est l'Afrique qui connaîtra un doublement de sa prévalence. Donc on est vraiment les pays en développement et l'Afrique sont rattrapés par cette problématique qui devient vraiment, vraiment un enjeu majeur de santé publique.
Alors justement, concernant le cas de l'Afrique, l'augmentation est spectaculaire hein, sur le continent africain. Les chiffres l'attestent donc, puisqu'on est passé de 4 millions de diabétiques en 80 à 25 millions en 2014. Alors que disent ces chiffres et pourquoi cette explosion selon vous, Stéphane Besançon?
Oui, alors 25, et comme je vous le disais, on va passer à 45 millions, donc ça continue à monter. Et c'est simple, hein, c'est un peu l'Afrique est frappée. Comme l'ont été d'autres pays avant par cette transition, hein, c'est-à-dire une espérance de vie qui augmente dans les pays. Déjà, les gens vivent plus vieux, donc ils développent des maladies liées à l'âge. Deuxièmement, des changements de mode de vie majeurs et très importants. Le premier, c'est une urbanisation vraiment très importante, qui fait que la sédentarité augmente énormément. Qui dit sédentarité dit moins d'activité physique. Et de l'autre côté, on a une transition nutritionnelle qui est très forte, avec des modèles alimentaires qui incorpore de plus en plus de gras, de plus en plus de viande, de plus en plus de produits transformés. Et du coup, cette transformation de l'alimentation et cette baisse d'activité physique fait qu'il y a une augmentation très forte du surpoids et de l'obésité, même dans des pays sahéliens. Ce qu'on oublie toujours, on a toujours des images d'Épinal, par exemple, pour le Mali ou le Burkina Faso. Mais on est déjà 20% de la population adulte au Mali qui est en surpoids. Donc, c'est pas là aussi un artefact. Et du coup, tout ça conduit à la fin à des maladies cardiovasculaires, à des diabètes et aussi à certaines formes de cancer. Il ne faut pas oublier ça aussi.
Avant d'entendre notre deuxième invité, je vous pose aussi une autre question. Est-ce qu'on lutte de la même façon contre le diabète ici et en Afrique, Stéphane?
Non, pas du tout. Parce que les moyens de prise en charge... Alors, il y a deux champs. Sur le champ de la prévention, déjà, les moyens investis sont beaucoup plus faibles. Les moyens législatifs des États aussi, quand on parle tout à l'heure d'aliments ultra transformés, de poids de l'industrie, de poids de la publicité, etc., j'allais dire la prévention contre ça et la lutte contre ça est très faible. Donc ça, c'est sur le volet prévention. Donc on a beaucoup plus de difficultés sur la prévention. Et sur le volet prise en charge, il y a des énormes problématiques puisque les systèmes de santé, depuis des années, sont quasiment focalisés sur VIH, PALU, TB. Ouais. Il y a très peu de moyens, hein, pour vous dire. Aujourd'hui, les financements pour toutes les maladies non transmissibles sur l'aide en santé, c'est 2%, alors que ça représente 80% des décès. Donc, on a un vrai problème de ce côté-là. Et des questions d'accès au traitement très, très fortes, notamment sur le diabète, d'accès à l'insuline, avec une insuline qui est très, très chère, et ouais, des gros problèmes d'accès. Alors qu'en France, par exemple, on est sur des patients qui ont une allocation longue durée, donc tout est gratuit, pas gratuit, mais tout est pris en charge par la sécurité sociale pour l'accès aux soins. Donc là, on voit une différence majeure.
Alors, Domingas Francisco, un mot sur ces chiffres, et vous qui agissez également de temps en temps sur le continent africain, qu'est-ce que vous avez envie de dire ?
C'est vrai que je rejoins, bonjour docteur, je rejoins ce qu'il dit le médecin. C'est des maladies qu'on ne voyait pas jusqu'à présent aussi élevées en Afrique.
Ouais.
On se rend compte que de plus en plus de gens sont malades, sont atteints du diabète, notamment les enfants, les adultes, dû à l'évolution. Les gens mangent de plus en plus mal, il y a tout ce qui est industrialisation qui arrive aussi en Afrique.
Ouais.
Donc il s'est fait que les gens sont de plus en plus malades et il y a aussi la prise en charge, comme il a dit le médecin. Les gens manquent de prise en charge, c'est pas comme en France où tout est pris en charge, il manque de médicaments dont la population a extrêmement besoin de ça. Il y a une nette augmentation de diabète du type 2, notamment au niveau de l'Afrique.
On va écouter un petit micro-trottoir enregistré dans les rues de la capitale. On écoute les auditeurs et on se retrouve juste après.
Alors, je disais vraiment, moi, je suis pour le repas de la maison. Et non seulement c'est moins cher, c'est bon, c'est sûr. Et en plus, c'est même bien pour l'éducation des enfants.
À la maison, bon, je mange riz, sauce graines, souvent riz, sauce arachide. Tu vois, le manger africain, quoi. Voilà, c'est ce qu'on mange beaucoup à la maison.
Moi, je privilégie préparer, donc je prépare le plus souvent quand je peux. Après, quand j'ai pas le temps, effectivement, les plats préparés, c'est la solution rapide et simple.
C'est ma passion d'abord même de cuisiner. Mais à défaut du temps, je suis obligé de manger de n'importe quoi pour ne pas dormir sans manger.
C'est souvent quand je suis en retard, donc quand je sors vite, il n'y a pas le temps de manger à la maison. Donc quand je suis en pause, je peux aller manger un grec ou un KFC, McDo, un truc comme ça. Sinon, je n'ai pas l'habitude de manger dehors, quoi, puisque madame est à la maison.
Je ne suis pas contre, mais par contre, je ne peux acheter que vraiment en cas de force majeure. Parce que aller tout le temps acheter, tu ne sais pas vraiment déjà ce que tu manges. Et ça rend les enfants fainéants.
C'est la nourriture qui a été cuisinée par des sociétés. Donc, quelles sont les conditions? Je me dis souvent qu'il y a les conservateurs pour garder les aliments. Donc, dans cet aliment, il y a des condiments qu'on va mettre. Que moi, si c'est moi qui cuisine à la maison, je ne vais pas les ajouter.
Quand tu manges à la maison, ça coûte moins cher. Parce que tu t'imagines, tu dois manger à matin, à midi et le soir. Donc déjà, ça te coûte 15 euros. Hop, dans les 15 euros, quand tu vas faire les courses de 15 euros, là, ça peut te faire 3 jours.
C'est plus vraiment au niveau de la qualité, parce qu'on sait ce qu'on prépare, on sait ce qu'on sert aux enfants, ce qu'on mange.
Ah oui, ça coûte 3 fois plus moins cher que ce qu'on achète en route. Par exemple, quand un enfant te dit « Non, maman, ça coûte 5 euros manger mon... » Si moi, j'ajoute 5 euros dessus, je fais à manger, il peut manger 2-3 fois. Et par contre, quand il va manger ses 5 euros, une heure de temps après, il a faim parce que ça ne vaut rien du tout.
Alors, il y a des arguments qui sont revenus dans le propos de plusieurs personnes concernant l'argent, le manque de temps, la facilité, la qualité des aliments, notamment. Quelle est votre réaction après le micro-trottoir, Stéphane Besançon?
Ouais, c'est quelque chose de très classique, hein, qui revient très très souvent, la question du temps et du coup la facilité des aliments tout préparés, ultra transformés. Les industriels travaillent là-dessus justement, hein, pour préparer des choses, pour caler là-dedans et que les gens aient du tout prêt, tout facile. Après, on oublie aussi souvent, alors c'est pas revenu là, mais que aujourd'hui, on a aussi une perte de savoir sur la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être des fois préparer ou cuisiner,
ouais,
mais qui savent pas comment faire. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, que mettre quelqu'un face à un rayon de légumes, par exemple, il faut qu'il sache en faire quelque chose.
Mais avec Internet, aujourd'hui, compliqué. On peut facilement trouver des recettes. Moi, souvent, je vais sur Internet
Entre trouver une recette et la mettre en pratique, c'est un peu plus compliqué. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'il y a une perte aussi de savoir culinaire qu'il faut pas négliger et qu'il faut justement retravailler avec les enfants au plus jeune âge pour leur réapprendre qu'est-ce que sont les aliments, mais aussi comment on les prépare. Donc voilà, donc il y a ça, et sur la question de l'argent aussi, souvent les industriels jouent là-dessus en disant c'est beaucoup moins cher nos produits. C'est pas vrai du tout en fait, ça dépend comment on prépare, comment on utilise l'argent, qu'est-ce qu'on fait du prix d'économie, du panier de la ménagère, mais on peut très bien manger pour pas excessivement cher si on sait prendre les bons aliments et bien les préparer.
Alors Domingas, un bon équilibre alimentaire s'acquiert dès le plus jeune âge, c'est important de le rappeler aux parents qui nous écoutent ce matin.
Moi, j'ai envie de dire que déjà, je m'adresse aux femmes, hein, aux mamans que nous sommes, parce que c'est la maman généralement qui tient la cuisine. Nous avons la responsabilité d'éduquer, de donner la vie à nos enfants. On doit aussi leur donner une bonne alimentation, un bon équilibre.
Ouais.
On voit que l'alimentation, on commence à la diversification à l'âge des 5 mois déjà. On commence à introduire les aliments, du sucré, du salé. Et c'est important de partir dès le bas âge avec les enfants, parce que les enfants, c'est les adultes de demain. À partir du moment où on leur a donné des bonnes bases, un bon équilibre alimentaire, ils vont grandir avec. C'est vrai qu'il y aura un moment, un âge, à l'adolescence, où ils sont un peu en rébellion, ils vont manger les fast-food. Mais si on leur a donné, on a appris à faire à manger avec eux, il faut les impliquer pendant qu'on fait à manger dans la cuisine. Les faire découvrir des légumes, cuisiner autrement, pas les imposer, les impliquer dans la préparation, dans l'organisation de repas. Les enfants, quand eux-mêmes ils préparent, ils mangent avec volonté, avec plaisir.
Parce qu'ils sont fiers, en fait.
Ils sont fiers de
faire. Participé.
Voilà, ils sont contents. Moi, j'ai fait ça, j'ai coupé les oignons, c'est important. On a tendance à faire vite, aller, mais il faut impliquer les enfants. Parce que c'est les enfants qui nous enseignent, en réalité. C'est eux, les adultes de demain. Nous, on a déjà une mauvaise base, mais il ne faut pas qu'en plus qu'on inculque des mauvaises habitudes alimentaires aux enfants.
Alors Stéphane Besançon, la plupart des études épidémiologiques montrent qu'après l'âge de 8 ans, il existe une relation entre le poids d'un enfant et de son poids à l'âge adulte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Disons que ça revient beaucoup aux habitudes alimentaires, aux habitudes de vie aussi, au mode de vie. C'est-à-dire qu'un peu, j'allais dire... Si les mauvaises habitudes de vie, activité physique, alimentation sont prises très tôt, on a des courbes de poids quand même qui ont tendance à être évolutives et on n'a pas de, c'est très rare que ceci casse et que les gens changent complètement d'habitude et du coup arrivent à développer un poids normal aussi à l'âge adulte.
Oui.
Ça, c'est vraiment, ça cristallise ce besoin de prendre des bonnes habitudes de vie au sens large. Hein. J'insiste beaucoup sur l'activité physique parce qu'on parle beaucoup de la nutrition, mais la clé, c'est aussi l'activité physique. On a souvent tendance à dire que c'est le principal médicament pour notre corps. Donc, c'est vraiment très important de prendre ces bonnes habitudes de vie le plus tôt possible.
Alors, concernant l'alimentation, Domingas, privilégier les produits simples, frais et les cuisiner soi-même. On a l'impression des fois que les fruits et légumes, par exemple, coûtent trop cher, alors que, en fait, on peut trouver des moyens pour pouvoir acheter des fruits et légumes, notamment à des prix concurrentiels et des prix qui ne vont pas crever le budget de la famille.
C'est vrai que les gens ont tendance à dire oui, préparer, manger du fait maison, ça coûte cher, on n'a pas le temps. Moi, j'invite les personnes à faire leurs courses au marché, par exemple.
Oui.
On va me dire, oui, ça coûte cher les fruits, les légumes. Aller vers la fin du marché, ce sont des astuces que moi, personnellement, j'ai fait.
Oui.
Ou aller vers les petits agriculteurs, les petits maraîchers du coin. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une région où il y a des maraîchers. Avec les enfants, on va faire nos courses auprès de ces personnes-là. Et en même temps, on va encourager, c'est une démarche citoyenne en même temps. Il y a tellement une évolution des grandes surfaces et des produits tout faits. Et aller vers des petits commerçants, aller acheter ses légumes, ses fruits, c'est important de les acheter soi-même. Si on n'a pas le temps, il y a aussi les fruits en boîte. Les gens ont tendance à penser qu'il faut forcément consommer des fruits frais. Des fruits en boîte, ils sont très bien. Il faut juste savoir lire ses étiquettes, prendre des fruits qui sont moins sucrés quand on n'a pas le temps. C'est important. On peut les conserver. Par exemple, en ce moment, on peut acheter ses noix. On peut le garder longtemps jusqu'à manger jusqu'à fin de l'hiver. On peut conserver ses fruits de l'été, manger des fraises en hiver, manger de la framboise en hiver. Moi, j'invite des personnes, je conseille des personnes, allez acheter vos fruits au marché, vos légumes. Vous pouvez les garder, les conserver sur le long terme.
Au téléphone, c'est Marcus qui nous rejoint. Bonjour Marcus. Oui, allez-y Stéphane Besançon avant de retrouver Marcus.
Non, il faut juste faire attention à un point. Quand on dit fruits en boîte, c'est si on les fait nous-mêmes ou s'ils sont industrialisés, parce que les fruits en boîte industrialisés sont extrêmement, extrêmement sucrés. Donc ça, c'est
d'où l'importance de lire les étiquettes.
Lesquels fruits en boîte.
Lesquels,
voilà,
oui.
Exactement.
Au téléphone, c'est Marcus qui nous rejoint. Bonjour Marcus.
Oui, bonjour Aïssel. Bonjour les
amis. Alors vous dites, je pense que l'éducation est au cœur du problème du diabète et de la mauvaise alimentation. Il faut boycotter le plus possible les produits transformés. C'est bien cela?
Oui, exactement, puisque l'invité sur le plateau l'a bien dit. C'est-à-dire, il faudrait éduquer nos enfants à ce qu'ils apprennent ce que c'est que la cuisine. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec cette pensée et que aujourd'hui, on n'a pas le temps. On dit qu'on n'a pas le temps, mais qu'est-ce qu'on fait pour ne pas avoir le temps de préparer sa propre nourriture qui est quelque chose de sacré pour soi? Donc, il y a un problème. C'est soit, comme on dit, les gens voient et l'avenir dans une forme de désastre de soi-même, mais c'est vrai, l'éducation fait la partie essentielle pour les générations futures. Et c'est ce qu'il y a. Le problème de l'Afrique, c'est que en Afrique, les gens vous disent que s'ils n'ont pas certains produits pour donner du goût à la nourriture, c'est une nourriture qui n'est pas bonne à manger. Alors que c'est vrai. Comme on dit, les gens sont habitués à manger du poison qu'ils ont oublié. Comment préparer la cuisine?
Merci, donc, Marc.
C'est toujours le même phénomène qui revient, et puis le sucre, c'est-à-dire les produits en grande surface, sont des produits qui ont beaucoup de produits chimiques et aussi du sucre. Parce que le sucre aujourd'hui est peut-être un élément de conservation de ces plats cuisiniers.
Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de quelques astuces, Domingas, hors antenne, notamment pour éviter le sucre, notamment. Alors vous avez, à la maison, il y a des petites astuces.
Tout à fait. À la maison, moi, par exemple, j'ai fait mes gâteaux moi-même maison.
Ouais.
J'évite d'acheter tout ce qui est gâteau préparé. Comme il a dit, les nutritionnistes, c'est extrêmement sucré. Ils vont mettre les conservateurs pour pouvoir garder. Un gâteau, par exemple, au yaourt, au lieu de prendre un ou deux pots de sucre, vous pouvez mettre que la moitié. Vous voyez? Et à la place du miel, vous pouvez remplacer par les sucres d'agave. On n'a pas besoin de mettre trop de sucre pour avoir un aliment ou un gâteau bien fait. Et ça, c'est important. C'est pourquoi je dis que c'est quand même un moment convivial. Il ne faut pas oublier ce côté plaisir.
Ouais.
C'est vrai qu'on lance la pierre aux aliments ultra transformés. Il faut limiter la consommation. J'ai des conseils parce que ils disent oui, moins sucré, moins gras. C'est faux. Il y a tellement, tellement d'additifs à l'intérieur. Occasionnellement, si on achète, un achat parmentier, occasionnellement, il n'y a pas d'inconvénient. Mais rajouter, consommer avec des légumes à côté, avec de la salade à côté. Qui n'a jamais consommé des plats cuisinés? Faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde. Cuisiner, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin d'être un cordon bleu pour apprendre à faire à manger. On peut partir d'une pomme de terre, on fait de la purée. La purée, on fait son hachis parmentier. De sa chine parmentier, on peut faire la soupe.
C'est très, très rapide à faire.
Voilà, c'est très rapide. Donc, il faut juste avoir du temps. Prendre du temps pour toi. Allez, on se donne 2 heures pour faire ces préparations. Préparer à l'avance,
ouais.
Tous les 2 jours pour faire à manger. On n'a pas besoin de passer 2 heures dans la cuisine. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a des recettes, il y a tout. Moi, personnellement, j'ai appris à faire à manger aux côtés de ma maman, aux côtés de ma grand-mère. Et on doit impliquer encore et encore nos enfants dans la préparation de repas. Je suis calée, je tiens à leur dire.
Alors justement, ces plats préparés qui contiennent aussi du sucre, hein, Stéphane Besançon.
Mm-hmm. Alors, c'est pire que ça. Hein. Ils contiennent du sucre, du sel, du gras. Donc, c'est le triptyque magique, mm-hmm. C'est-à-dire beaucoup de sucre, beaucoup de graisse et beaucoup de...
additifs, conservateurs. Hein,
il ne faut pas oublier, c'est mm-hmm. vraiment... Oui, alors après, ça c'est encore... Il y a aussi, c'est un autre problème, c'est-à-dire mm-hmm. les additifs, les conservateurs, mais on est sur deux problèmes différents.
Ouais.
C'est-à-dire d'abord le problème des macronutriments et après mm-hmm. le problème des conservateurs. Après, il y a un outil quand même qui se développe, qui est vraiment un outil excellent, qui est le fameux Nutri-Score,
ouais,
c'est-à-dire
Nutri-Score.
Ce label
ouais.
qui permet de voir par des couleurs et des lettres et qui permet de voir aussi, du coup, que tous les produits ultra transformés sont pas à mettre à la corbeille dans la même catégorie. On voit que pour des mêmes produits, on peut aller du rouge au orange, voire au jaune, voire certains presque au vert.
Est-ce fiable?
Donc, c'est important de militer aussi pour ce Nutri-Score, parce que c'est un très, très, très bon outil mm-hmm. pour montrer aux gens, OK, d'abord, aller vers la préparation vous-même, ce que vous pouvez préparer, laisser de côté les aliments ultra transformés. Maintenant, si vous devez aller vers les aliments ultra transformés, lesquels choisir? Quel est le meilleur choix à faire?
On va y revenir dans un instant parce qu'il y a Sophie qui attend. Sophie, bonjour. Vous pouvez éteindre la radio qu'on vous entende. Sophie?
Sophie?
La radio est allumée. Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît?
Je veux pas allumer la radio du tout. Je comprends pas.
Oui, un petit écho. Alors, vous dites, j'ai 4 enfants. Allez-y, on vous écoute, Sophie.
Alors, je suis maman de 4 enfants. Je bouge beaucoup. Donc, du coup, ma question était, certes, je suis d'origine africaine. C'est vrai que nos plats typiques, un peu, parfois, on a envie de montrer à nos enfants, voilà, comment on mange. Je suis du Congo, comment, voilà. J'essaye d'éviter ça, parce que c'est quand même beaucoup du gras. C'est vrai que c'est vraiment enrichi en gras. Et du coup, malgré ça, ça m'arrive comme toute autre personne. Je suis fatiguée parfois. Voilà, je rentre fatiguée à gérer tout le monde. Je prends parfois de plats surgelés, je mets au four. J'essaie un peu de modifier en rajoutant quelques touches personnelles. Mais est-ce que c'est bien? C'est mieux pour la santé de nos enfants, ces jours? Non, c'est ça la question.
Moi, j'ai envie de vous dire que ça dépend de la fréquence, en fait.
Tout à fait. Bien ça. Tout à fait d'accord avec vous. Je suis de l'Afrique, l'Angola et du Congo. Je mange les sakasaka, je mange tout ce qu'on peut manger. Vous savez, on a l'habitude de préparer son sakasaka avec beaucoup d'huile de palme. Moi, j'ai arrêté l'huile de palme dans les sakasaka. Ce n'est pas ça qui donne le bon goût. Faites votre sakasaka comme vous le faites et à la fin, rajoutez un peu de l'huile d'olive. Simplement. Vous pouvez rajouter du riz par un morceau de manioc. Par les bananes plantains, il faut varier. Vous pouvez manger vos épinards sans rajouter du gras. On a appris à préparer avec beaucoup de gras. C'est ça ma lutte, dire aux femmes, aux mamans, aux Africaines, manger. On a des bons aliments en Afrique et en France. Mm-hmm. On peut consommer tous les légumes qui existent en Afrique. Il faut juste limiter les sels, les gras, parce qu'on nous a appris à frire, évitons les fritures, faisons des grillades. Mangeons bien et sainement. On peut manger africain et sans problème, vous voyez. Donc, je ne suis pas trop d'accord quand on dit on mange gras. Par exemple, les haricots, c'est très bon, c'est des légumineuses. Il y a beaucoup de protéines, vous pouvez en manger comme vous voulez. Tous les jours, ça remplace votre viande. Mais comment vous le préparez, vos haricots? Limitons les sels, limitons les gras.
La plupart du temps, même quand on va à la famille et tout, les plats, ils sont quand même gras.
Oui, mais vous n'allez pas à votre famille tous les jours. C'est de temps en temps. Donc, occasionnellement, mais à la maison.
Occasionnellement. Mais à la maison, j'essaie de faire de mon mieux. Déjà, je ne cuisine pas avec du sel. J'essaie juste de mettre un cube cubor dans mes plats.
La question du cubor.
Stéphane Besançon, qu'est-ce que vous avez envie de dire à
Sophie? La question du cubor.
Voilà. Est-ce que c'est bien d'utiliser tout ça, des cubes qui bordent
Stéphane Besançon, Sophie, on va vous répondre, allez-y. Stéphane
Oui, alors, la question est toujours une question de quantité, c'est-à-dire les cubes, tout le monde sait, j'ai fait beaucoup de vidéos sur Internet, j'ai fait beaucoup de choses sur les cubes alimentaires. Effectivement, si on en met, vu la quantité de sel qu'il y a dedans, si on en met 5, 6, 3, 4, 5 dans une sauce, c'est un gros problème de salaison. Et si on ressale par dessus, c'est un énorme problème. Maintenant, si comme certaines personnes, on en effrite un tout petit peu, une petite quantité, c'est moins grave. Donc, c'est une question aussi de proportion. De proportion. Donc, comme tout, après, on peut aussi de nouveau là, les faire soi-même.
Tout à fait.
Les cubes, c'est-à-dire faire un bouillon avec, par exemple, si on veut un cube viande, prendre des os de poulet, faire un bouillon avec, on fait soi-même, on maîtrise la quantité de sel, on maîtrise aussi les additifs, etc. Donc on revient sur les deux choses qu'on a dit depuis le début de l'émission. La première, la question des quantités, et de faire attention, d'être raisonnable et modéré, parce qu'il n'est pas non plus question de dire aux gens, il faut plus manger de sucre, c'est impossible, mais de nouveau, ou de sel, donc c'est une question de raisonner. Et la deuxième chose, d'essayer de faire le maximum de choses soi-même pour maîtriser tous les produits secondaires, les additifs et les quantités.
Est-ce que vous avez des petites astuces pour les enfants, par exemple, pour leur faire adopter les bonnes habitudes alimentaires de Mingas?
Déjà, premièrement, faire à manger avec eux. D'accord? Les inclure, les faire participer pendant nos aliments, faire des courses avec eux, apprendre à lire les étiquettes avec les enfants. Les gens ont tendance à ne pas se lire les étiquettes, c'est simple.
Ça prend du temps tout ça?
Pas du tout, pas du tout. Il faut prendre du temps. On a le temps de pour s'habiller, se maquiller. Il faut prendre du temps aussi pour faire ses courses, pour faire à manger. Vous savez, c'est un capital santé, nos enfants. Donc, leur donner un bon départ, des bonnes bases, c'est important. Faisons à manger avec nos enfants. C'est non seulement c'est convivial, c'est un moment familial. C'est un moment culturel où vous partagez un savoir-faire. On voit souvent, ma mère faisait ça, ma grand-mère, c'est vraiment une transmission culturelle. Et manger en famille, ça permet aussi de parler de ce qui s'est passé dans la journée, qu'est-ce que tu as fait à l'école, tous les petits soucis de l'école. C'est ce moment-là où on parle en famille. Donc, faites participer vos enfants. Laissez les enfants faire à manger. Même s'ils ont mis les bazars partout, ils ont mis, c'est ne pas grave, on y va nettoyer. Nous, les mamans, on a tendance à vouloir tout faire parce qu'on veut que tout soit propre. Ouais. Faisons participer nos enfants. Ils aiment ça. Et moi, je fais des ateliers avec les enfants dans ma ville. Et je vous assure que j'ai un succès avec eux parce que eux-mêmes, ils préparent, ils en parlent auprès des parents. Et là, on va faire participer les parents. Parce que les mamans disent, en effet, je ne fais pas à manger avec mon enfant. Du coup, ils n'aiment pas ça, ils ne mangent pas ça. Moi, je suis stupéfaite de voir qu'il y a les enfants qui ne mangent pas des légumes, qui ne connaissent pas certains légumes, certains fruits. Ce n'est pas normal.
Stéphane Besançon, je vais vous laisser conclure. Il reste une minute.
Je pense que ce qui est très, très important, c'est de se rappeler les règles de base de ce que c'est une alimentation équilibrée, surtout qu'il y a eu beaucoup de rapports qui sont sortis dernièrement. Donc, ça veut dire réduire la consommation de viande rouge, notamment. Hein, les recos aujourd'hui, c'est pas végétarien, mais c'est une fois par semaine, ça suffit largement et c'est bon aussi pour l'environnement. Deux fois par semaine du poisson, de remonter très fortement les fruits et les légumes, d'introduire les légumineuses, les pois chiches, les lentilles, c'est très important. Ouais. De boire majoritairement de l'eau, hein, ça aussi c'est très important, éviter les quantités de soda très importantes, d'augmenter la consommation de fibres aussi, hein, mais ça va être les fruits et les légumes, et avec tout ça, de faire une activité physique, essayer de faire 30 minutes par jour, et on arrive à quelque chose qui est plutôt très très bien pour la santé et pour notre planète aussi, ça c'est très important.
Il y a aussi la fabrique à menu hein, du site Manger Bouger, c'est un outil qui permet de composer des menus équilibrés avec des recettes simples, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous voulez, des idées, des petites astuces. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation, l'émission sera téléchargeable dans un instant sur les réseaux de la Radio Africaine. C'est la pause, on se retrouve juste après pour Ambiance Africa, bougez pas.